Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le chercheur français Roland Marshall, emprisonné en Iran. Il a été arrêté début juin avec sa compagne Fariba Adelra. Pourquoi le régime iranien s'en prend-il à deux chercheurs français? L'invité de ce journal est Jean-François Bayard, ex-directeur du Centre international de Sciences Po. Il connaît très bien les deux. Il dément toute accusation d'espionnage et il nous dévoile les coulisses géopolitiques de cette histoire. En Syrie, les djihadistes français qui pourraient profiter de la guerre pour s'échapper pourraient-ils être exfiltrés en Irak? Jean-Yves Le Drian s'apprête à partir dans le pays. Le couple franco-allemand veut afficher son unité. Conseil des ministres en commun aujourd'hui à Toulouse, à la veille d'un sommet crucial sur le Brexit. Unité vraiment, analyse Marie-Pierre Véraud. Inquiétude pour les pompiers intervenus sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Ils reçoivent les premiers résultats d'analyse et ils ne sont pas bons pour au moins une dizaine d'entre eux, selon un syndicaliste pompier. Appel à la grève dans tous les magasins Conforama contre les conditions du plan social. 32 magasins concernés, 1900 emplois. Écoutez, ce salarié du magasin Dupont-Neuf à Paris, 17 ans dans l'entreprise, voilà ce qu'on lui propose.
Moi, ça va être 2000 euros. Ouais. 2000 euros, de 10 à 20 ans, c'est 2000 euros. 2000 euros, c'est ce que je représente. Voilà, j'ai pas les mots.
Reportage Maxime Debs tout à l'heure. Contre la réforme des retraites, une première journée interprofessionnelle de grève sera organisée. La date, le 5 décembre. La grande star de ce journal est assez étrange. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Vous allez nous présenter un nouveau pensionnaire du Zoo de Paris. Le blob.
Il n'a pas de cerveau, pas d'estomac, pas de pattes, pas de nageoires. Ce n'est pas un animal, pas un végétal. Ses capacités défient les lois de la biologie et chez lui, il y a 700 sexes.
Les détails tout à l'heure. Il a 701 sexes. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré tout à l'heure. Quel est le programme?
On parle de l'obsolescence programmée, cette pratique qui réduit volontairement la durée de vie de nos objets. Je reçois Laetitia Vasseur qui mène le combat pour l'association HOP. Et vous pouvez lui poser toutes vos questions dès maintenant.
Au 01 45 24 7000, l'émission c'est à 13h30. Avant cela, le choix cinéma d'Eva Bétan, un festival cette semaine, Festival Lumière à Lyon, le 13h. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Il y a une semaine exactement, la Turquie lançait son opération militaire baptisée « Source de paix » contre les Kurdes dans le nord de la Syrie, de l'autre côté de sa frontière. Une crainte majeure, la libération dans la nature d'une partie des 12 000 djihadistes du groupe État islamique retenus dans des camps du nord de la Syrie, entre 2 et 3 000 étrangers, dont des Français. Est-ce qu'ils pourraient être exfiltrés en Irak, autre pays voisin de la Syrie? C'est une piste. Jean-Yves Le Drian était ce matin l'invité de nos confrères de BFM. Claude Guibal, le ministre français des Affaires étrangères, s'apprête à partir pour l'Irak.
En Irak, où pourraient s'accélérer les transferts de djihadistes détenus dans les camps gérés par les Kurdes en Syrie afin d'éviter leur fuite. C'est en tout cas ce à quoi réfléchissent plusieurs pays européens, même si pour Jean-Yves Le Drian, interrogé par BFM TV, la priorité est ailleurs.
Faire en sorte avec les autorités irakiennes que l'on puisse trouver les moyens d'avoir un dispositif judiciaire susceptible de juger l'ensemble de ces combattants qui seraient pris en charge par les forces irakiennes.
Ce mécanisme, c'est la création d'un tribunal international en Irak. Là encore, sept pays européens ont commencé à en discuter avec Bagdad. La France, elle, a déjà fait transférer en début d'année 12 djihadistes de la Syrie à l'Irak où ils ont été condamnés à mort. Une procédure hors cadre qui a valu à la France d'être interpellée par les Nations Unies. Jean-Yves Le Drian affirme toutefois que les camps où sont détenus les djihadistes sont toujours contrôlés par les Kurdes. Selon lui, seules 9 femmes se sont échappées du camp de Ayn Issa, là où, selon les Kurdes, 800 personnes auraient fui, des enfants, des femmes, sur lesquelles Jean-Yves Le Drian maintient sa position.
Les femmes françaises qui se rendent en 2015 dans cette région, elles savent ce qu'elles font. Elles vont pas faire du tourisme.
Ce sont des terroristes.
Ce sont des combattantes contre la France. Elles doivent être jugées.
En Irak, si possible.
Une position qui scandalise les avocats des familles des victimes qui estiment qu'elles doivent être jugées par la justice antiterroriste française.
Une semaine après le déclenchement de cette phase de la guerre en Syrie, l'ONU avance le chiffre de 160 000 déplacés et les organisations internationales humanitaires ont cessé leurs activités. Cela devient trop dangereux. Seuls restent les agences de l'ONU. Au plan militaire, les combats font rage dans la ville de Ras Al Ayn, Minbej, Ayn Issa. Et au plan diplomatique, une grande puissance affronte un dilemme. C'est la Russie. Deux de ses alliés dans la région risquent de se trouver face à face, la Turquie et la Syrie, qui a passé un accord avec les Kurdes. Alors Moscou essaye de jouer de son influence. Bonjour Claude Brouillot.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter à Moscou, Vladimir Poutine invite le président turc Erdogan dans les jours à venir en Russie, Claude.
Oui, le président russe a bien compris les dangers d'un affrontement donc entre ses deux alliés turcs et syriens, par le biais d'un côté des milices syriennes composées d'anciens djihadistes, favorables à Ankara donc, et de l'autre côté en raison de la volonté ferme de Damas de récupérer l'intégralité de ses territoires au nord, à laquelle s'ajoute la présence toujours effective de troupes kurdes. L'objectif principal pour le Kremlin dans les semaines à venir en Syrie sera donc d'abord de garder la maîtrise des événements en essayant si possible d'écarter les Kurdes. Mais c'est plutôt mal parti, puisque malgré l'instauration de patrouilles russes près de Manbij, au nord-ouest de la Syrie, à proximité donc de cette nouvelle ligne de front, les premières victimes de tirs d'artillerie ont été enregistrées hier dans les rangs de l'armée du régime syrien. Et cela malgré les rappels à l'ordre sur le terrain de l'envoyé spécial du Kremlin en Syrie, Alexander Lavrentiev. La Russie a la volonté de tout gérer en Syrie pour asseoir définitivement son emprise sur la région. Pas sûr qu'elle en ait les moyens. On nous a annoncé ce matin que des généraux russes et américains ont échangé dans la nuit, un peu comme s'il fallait parler d'un passage de témoins au nord-est de la Syrie. Mais il reste encore beaucoup de questions en suspens. La gestion de nouveaux réfugiés, la question des Kurdes de Syrie, le lancement effectif d'une commission constitutionnelle annoncée il y a bientôt 2 ans à Sotchi est toujours au point mort, sans parler ensuite de la reconstruction que les Russes là sont carrément incapables d'assumer seuls.
Claude Brouillot en direct de Moscou pour France Inter. Côté américain, les deux Mike, le vice-président Mike Pence et le chef de la diplomatie Mike Pompeo, doivent rencontrer le président Erdogan demain en Turquie. Erdogan qui rejette par avance toute hypothèse de cesser le feu à ce stade. Alors que le Moyen-Orient traverse à nouveau une période de grande tension, en Iran, ce n'est pas une, mais 2 chercheurs français qui sont retenus dans le pays. La franco-iranienne Fariba Adelra, c'était déjà public, mais le nom d'un autre chercheur est rendu public depuis ce matin. Le compagnon de Fariba Adelra, Roland Marshall, sociologue réputé, spécialiste des guerres civiles, il a été arrêté en même temps que sa compagne début juin à l'aéroport de Téhéran. Les deux travaillent pour le centre de recherche de Sciences Po, le CERI. Bonjour Jean-François Bayard.
Bonjour.
Ex-directeur du CERI Sciences Po, vous êtes aujourd'hui à Genève. Vous connaissez très bien les deux. Que sait-on, Jean-François Bayard, des conditions d'arrestation et de détention des deux chercheurs ?
Apparemment, ils ont été arrêtés de manière séparée mais concomitante. Roland Marshall à l'aéroport même de Téhéran, alors qu'il arrivait, sauf erreur de ma part, de Dubaï par avion. Et Fariba Adelra, nous ne savons pas où, et vraisemblablement la même journée, elle a disparu de son WhatsApp le 5 juin à 15h. Les conditions de détention sont rudes, même si rien ne permet de penser qu'ils sont maltraités. Ils sont néanmoins soumis à des interrogatoires intensifs dont on ne connaît pas le détail, mais nous avons des témoignages d'autres personnes qui sont passées par Evin et nous savons que c'est une épreuve extrêmement difficile et leurs conditions de détention sont rudes sur un plan matériel parce que tel est le sort des prisonniers et notamment des prisonniers dans l'aile des gardiens de la révolution de la prison d'Evin à Téhéran.
Pourquoi ont-ils été arrêtés? Peut-être, sans doute, y a-t-il une raison officieuse et une raison officielle?
Beaucoup de rumeurs circulent que nous ne pouvons absolument pas vérifier. L'accusation officielle apparemment, je dis bien apparemment parce que le ministère des Affaires étrangères iranien et le porte-parole du gouvernement disent qu'ils ne savent pas trop pourquoi, parce que manifestement cela relève de la souveraineté des seuls gardiens de la révolution. Mais enfin, on croit savoir qu'ils sont suspectés d'atteinte à la sécurité de l'État. Il est clair que cette allégation n'a absolument aucun fondement. Les seules activités de ces deux chercheurs sont strictement scientifiques. Aucun des deux ne se livre à la moindre activité politique en Iran ou à l'égard de l'Iran. Donc le plus vraisemblable, c'est qu'ils servent de gage dans nous ne savons quelle transaction, quelle négociation, et dans la partie de bras de fer qui a déclenché de manière absolument catastrophique Donald Trump dans la région.
L'hypothèse, une hypothèse possible en tout cas, puisque vous parlez de gage, c'est qu'il soit utilisé comme moyen de pression pour peser sur la France qui essaie de jouer les médiateurs dans la crise entre États-Unis et Iran.
C'est une hypothèse et on peut penser que les gardiens de la Révolution qui se battent sur plusieurs fronts contre les États-Unis, y compris les Européens qui ont une position plus modérée que celle des États-Unis, mais qui sont quand même plus du côté américain ou saoudien que du côté iranien. Donc on peut penser que les gardiens de la Révolution cherchent à déplacer le curseur des négociations en cours et dont Emmanuel Macron a été le médiateur en quelque sorte. Mais il y a également très certainement un jeu interne au système de pouvoir iranien, et les gardiens de la révolution cherchent sans doute également à faire pression sur le président Rouhani, sur le gouvernement, voire éventuellement sur le guide de la révolution. Le système iranien est collégial, il est polycentrique, et le guide de la révolution, Ali Khamenei, est lui-même soumis à ce jeu factionnel complètement opaque.
Jean-François Bayard, leur détention était connue des spécialistes depuis de longues semaines, connue et tue pour laisser une chance aux discussions. Est-ce qu'il y a des discussions actives pour obtenir leur libération ?
Ce que nous pouvons dire, c'est que dès le début, les autorités françaises se sont engagées avec détermination et discrétion pour obtenir leur libération, y compris au plus haut niveau. Simplement, il nous a été recommandé d'observer la plus grande discrétion. Nous l'avons fait d'autant plus volontiers que, d'une part, rien ne nous permettait de douter de l'engagement des autorités françaises et que, d'autre part, toute mobilisation provenant de pays occidentaux est immédiatement assimilée par les gardiens de la Révolution à de sombres manœuvres de l'impérialisme. Et ça n'aurait pas forcément aidé nos collègues que de manifester de façon bruyante. Maintenant, les choses sont un petit peu différentes et nous en appelons solennellement à la suspension de toute forme de coopération scientifique et culturelle avec l'Iran.
Quels moyens de pression possibles pour obtenir leur libération ? Quels termes de la discussion sont possibles ?
C'est une question qu'il faut poser aux diplomates qui ont des éléments d'information que naturellement nous n'avons pas. Les précédents montrent que les Iraniens sont des négociateurs de longue haleine, qu'ils savent gérer le temps et donner du temps au temps, malheureusement. Il y a une part très certainement, je ne veux pas dire d'irrationalité, mais les gardiens de la Révolution se comportent un petit peu comme des bolcheviques en 1917-1920. Ils ont une longue pratique de la clandestinité, de l'action révolutionnaire, de l'action militaire, et ils ne sont absolument pas socialisés aux bonnes mœurs de la diplomatie et des relations internationales. Donc la négociation est extrêmement difficile. Les moyens de pression, naturellement, il revient au pouvoir politique et aux diplomates de savoir lesquels mettre en œuvre. Ce que nous demandons maintenant, et à vrai dire depuis le début, c'est que toute forme de coopération scientifique, d'échange scientifique, sauf naturellement la l'accueil des étudiants doit être suspendu par solidarité, mais aussi parce que la sécurité des universitaires européens n'est plus assurée en Iran. Il faut absolument renoncer à toute forme de relations scientifiques avec ce pays, jusqu'à preuve du contraire.
Jean-François Bayard, l'ancien directeur du CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, entretien enregistré en fin de matinée. S'il est un moment de l'histoire européenne où l'on a besoin d'un couple franco-allemand particulièrement soudé, c'est en ce moment. Brexit, guerre en Syrie, doute généralisé sur l'efficacité de la machine européenne. Les gouvernements français et allemands, une partie d'entre eux, sont réunis aujourd'hui et en tête de la délégation Angela Merkel et Emmanuel Macron. Ça se passe à Toulouse, ville d'une des grandes réussites européennes, Airbus. D'ailleurs, c'est par une visite d'une usine Airbus que la journée commence. Et puis à 16h30, il y aura le Conseil des ministres franco-allemands. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Bruno.
Alors, unité ou pas du couple franco-allemand, examinons ça avec vous. Parmi les terrains sur lesquels l'unité est mise à l'épreuve, industrie et armement.
Oui, avec notamment deux projets conjoints très ambitieux, le futur avion de combat placé sous contrôle français et le char du futur programme dirigé par les Allemands. Ils sont censés remplacer les Rafales, Eurofighter, Leclerc et Léopard. Or, cela patine. Tout s'en est mêlé, compétition entre industriels de chaque côté du Rhin, habitudes de travail différentes, méfiance à lever, choix stratégiques aussi parfois divergents. Alors, l'Élysée tient à dédramatiser. Il est normal, dit-on, qu'il y ait des difficultés. C'est le premier grand programme franco-allemand dans le secteur de la défense. Les blocages seront levés au niveau politique. Des avancées sont effectivement attendues à Toulouse. Reste une différence politique majeure entre Paris et Berlin. Si le président français dispose d'un pouvoir régalien en matière de défense, la chancelière allemande, elle, vous le savez, a les mains liées par le Bundestag. Dès qu'un programme d'armement dépasse les 25 millions d'euros, le Parlement allemand a son mot à dire. C'est donc un exercice permanent de conviction de ses députés auquel elle doit se livrer. S'ajoute la question des exportation d'armes plus sensible outre-Rhin qu'en France. Un accord aurait là aussi été trouvé, mais vous voyez, on avance à pas compter.
Plus largement, Marie-Pierre, le couple veut afficher son unité.
Oui, c'est d'ailleurs pourquoi il débute cet après-midi par la visite de la chaîne de montage de l'A350 en cette période de tension commerciale. Paris et Berlin veulent montrer que sur la coopération industrielle, on marche d'un même pas. Plus largement, à Toulouse, après avoir dîné ensemble déjà dimanche à Paris, Merkel et Macron vont aussi coordonner leur position avant le Conseil européen, que ce soit sur le Brexit, l'offensive turque ou le prochain budget de l'Union. Ce sera plus difficile sur l'élargissement. Il ne s'agit pas de masquer les désaccords, précise-t-on à l'Élysée, mais de rappeler que sur les sujets essentiels, Paris et Berlin n'ont pas de divergence. Leur relation est décrite comme irremplaçable en Europe.
Et à 19h, la présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se joindra à la délégation. Tout cela, vous le disiez, à la veille d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement consacré notamment au Brexit. Ils appellent à la grève dans tous les magasins Carrefour. Grève contre les conditions jugées honteuses du plan social dans l'entreprise. Trois syndicats mènent la bataille. La direction de Conforama prévoit de fermer 32 magasins, de supprimer 1900 emplois. Reportage au magasin du Pont-Neuf au centre de Paris. Les sommes proposées aux salariés qui partiraient provoquent la colère, Maxime Deps.
Devant la porte close du principal magasin Conforama de la capitale, ce matin, Sébastien apprend ce que ses patrons sont prêts à lui concéder au bout de 17 ans d'ancienneté.
Moi, ça va être 2000 euros. Ouais, 2000 euros, de 10 à 20 ans, c'est 2000 euros. 2000 euros. Donc, c'est ce que je représente. Voilà, j'ai pas les mots.
Cliente habituelle, une passante s'arrête et s'indigne à son tour.
Ça me choque complètement. Non, ça vous choque pas, vous ? Qu'on vire les gens sans les reclasser, sans leur proposer un boulot. Et surtout sans aucun moyen de vivre pendant un moment. Complètement choquant.
Fatou, 15 ans, passé en caisse chez Conforama, s'inquiète pour elle et ses enfants.
Déjà, il y a le stress, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Avec 1000 ou 1500 euros, on va aller où ?
Toute cette semaine, les actions vont donc s'enchaîner dans les différents magasins du groupe jusqu'à obtenir mieux. Gilles Guest, délégué CGT.
Donc aujourd'hui, il y a une détermination, les gens sont motivés. Et surtout, les gens sont désespérés et les gens désespérés, et ben peut-être qu'ils vont avoir des réactions auxquelles on ne peut pas s'attendre.
Les syndicats de prévenir, s'il survient des drames, on les aura vus venir. Martin Troadec, Maxime Deps, France Inter.
Dans le climat social, une date importante à cocher sur le calendrier. Le 5 décembre, 4 syndicats, CGT, FO, FSU et Solidaires et 4 organisations de jeunesse appellent à une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. 5 décembre donc, ce sera un jeudi. 3 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol, quelques inquiétudes pour les pompiers qui sont intervenus sur le feu. Ils reçoivent progressivement les résultats des prélèvements auxquels ils ont été soumis. Selon un syndicat au sein des services de secours, des résultats sont inquiétants pour 10 policiers. Le porte-parole du SDIS ne parle que de 5 analyses inquiétantes sur 900 pompiers. Quelles mesures pour soulager les directeurs d'école qui croulent sous les tâches administratives, les sollicitations des parents, les changements, les normes. La question a pris un tour dramatique avec le suicide de Christine Renon, la directrice d'école de Pantin. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, était ce matin sur France Inter. Il promet des mesures après la Toussaint ou à tout le moins avant la fin de l'année.
Je discute actuellement avec les organisations syndicales de ce sujet qui est très structurel, qui a beaucoup de facettes. L'urgence est de dégager du temps pour les directeurs d'école, d'éviter qu'ils se sentent seuls. L'une des facettes, c'est d'alléger les tâches administratives des directeurs d'école. Une autre, c'est davantage les aider, notamment dans les relations au quotidien avec les interlocuteurs, les familles, etc. Il y a d'autres éléments qui ont trait à la reconnaissance du métier, à son statut, qui sont des sujets complexes, qui nécessitent beaucoup de discussions. Donc nous sommes en train d'avancer sur ces questions. J'espère qu'on sera en mesure d'annoncer de premières choses au cours des prochaines semaines. Et puis qu'on puisse avancer sur des points décisifs pour non seulement les mois prochains, mais aussi la rentrée prochaine.
Un propos recueilli par Laurent Kramer. Et ce matin sur France Inter, le ministre de l'Éducation est revenu sur ses déclarations à propos du voile islamique. Il assume ses propos. Ce n'est pas souhaitable pour notre société. À propos des mamans voilées lors des sorties scolaires, il regrette la trop grande médiatisation du sujet. Ce n'est pas un sujet très important, dit Jean-Michel Blanquer. Et il rappelle, la loi ne l'interdit pas. À l'origine de cette nouvelle flambée du débat sur les mères voilées dans les sorties scolaires, un élu du Rassemblement National qui a pris à partie une mère devant son fils au conseil régional de Bourgogne. La femme en question témoigne ce matin sur le site du collectif contre l'islamophobie en France. 5 jours après, dit-elle, j'ai peur de tout. Sincèrement, ils ont détruit ma vie. Et elle décrit son fils comme toujours sous le choc également. Aux États-Unis, dans un peu plus d'un an, la présidentielle, les démocrates peuvent-ils faire tomber Trump déjà sous la menace d'une procédure d'impeachment? Nouveau débat la nuit dernière entre les principaux candidats démocrates. Eloi Glory, celle qui est désormais en tête des sondages, la sénatrice Elizabeth Warren, a dû se défendre face à de nombreuses attaques.
Les démocrates sont tous d'accord, la procédure d'impeachment doit avancer. Une fois dit ça, les hostilités commencent et pour la première fois, c'est Elizabeth Warren qui a une cible dans le dos. Au moins, Bernie est honnête, s'est dit ainsi Amy Klobuchar, qui l'accuse d'être évasive et c'est vrai sur les impôts qu'elle compte mettre en place. Beto O'Rourke, lui, l'a décrit comme l'ennemi des riches. Parfois, j'ai l'impression que la sénatrice cherche plus à punir, à monter certaines parties du pays contre les autres plutôt que d'inspirer les gens, de les rassembler. Je n'ai pas de problème personnel avec les milliardaires, répond Elizabeth Warren, solide dans la tempête et qui déroule son message. Ma question, ce n'est pas pourquoi Bernie et moi sommes pour une taxe sur les grandes fortunes. Non, c'est pourquoi ici même tout le monde pense qu'il est plus important de protéger les milliardaires plutôt que d'investir sur la nouvelle génération. D'autant plus que ses deux plus gros adversaires, Joe Biden et Bernie Sanders, restent en retrait. La sénatrice ne sort pas franchement affaiblie du débat. Elle aura même montré qu'elle savait se défendre, une qualité qui sera essentielle face à Donald Trump. New York, Loïc Lourdes. France Inter.
Et aux États-Unis encore, un homme peut-il être condamné à la prison à vie pour des faits commis alors qu'il avait 17 ans? Le cas de Lee Malvo est examiné tout à l'heure par la Cour suprême. En 2002, avec un complice, il avait tué 10 personnes. Les deux parcouraient en Chevrolet les rues de la région de Washington et tuaient des personnes quasiment au hasard. Son cas donc examiné aujourd'hui par la Cour suprême.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Et Sophie Becherel, comme promis, vous êtes dans ce studio pour nous raconter une première mondiale, un nouvel invité aux Audes, Vincennes. Le blob, ni végétal, ni animal, ni champignon, c'est un truc bizarre qui fait donc pour la première fois au monde son entrée dans un zoo. Alors, description du truc, Sophie, couleur jaune, comportement étrange, des faux airs de feuilles de chou. Tout ce qu'on sait sur le blob, on le doit à une jeune chercheuse du CNRS qui en a fait son sujet d'étude. Ce ne sont pas des soigneurs qui s'occupent de lui, mais des jardiniers. Alors, vous avez vu le fameux blob.
Si je le résume en un mot, c'est un mystère.
Bruno David, le président du Muséum National d'Histoire Naturelle, est comme tous les biologistes estomaqué par cette étrange créature au comportement surprenant.
Il est capable d'apprentissage, il est capable d'une forme d'intelligence, il déteste le sel et si on lui met une barrière de sel entre lui et sa nourriture, au début il est bloqué, puis après il apprend à franchir cette barrière de sel. Et de manière encore plus surprenante, si un blob qui a appris à faire cela fusionne avec un blob qui ne sait pas faire, le nouvel individu ainsi créé sait faire.
Et ce n'est pas tout, ce truc bizarre qui se déplace de 1 à 4 cm par heure a une personnalité. Le blob japonais est plus rapide à trouver sa nourriture que le blob américain, mais il est aussi plus pacifiste. Au parc zoologique de Paris, c'est une espèce australienne qu'on a confiée aux jardiniers comme Frédéric Geoffrio.
Donc là, mon collègue Rudy est en train de vous montrer un blob en culture sur flocons d'avoine, dont il s'est apparemment bien délecté. Donc plus il va avoir de flocons, plus il va grossir.
Après la boîte de pétri, où il double de volume tous les jours, le blob est transféré en terrarium. Il fuit la lumière et la chaleur. Ses besoins sont simples, dit Rudy Guillaume, responsable adjoint des espaces verts.
Une certaine humidité, de l'écorce, un substrat, donc représentant un peu la litière d'une forêt, de façon à ce qu'il puisse se développer gentiment et tranquillement, tout simplement.
Entre autres curiosités, il y a chez le blob 700 sexes différents. Et si vous voulez en savoir encore plus et que vous n'habitez pas à Paris, direction la librairie pour y dénicher le livre de la chercheuse Audrey Dussautour, grâce à qui on sait tout.
Et on peut d'ores et déjà le voir au parc zoologique?
Oui,
ou pas tout de suite?
On le voit bien sûr, il est à côté des tortues.
Bienvenue au blob, merci Sophie Becherel. Le conseil cinéma comme chaque mercredi avec Eva Béton. Bonjour Eva.
Bonjour.
Allez, pas un film cette semaine, un festival de cinéma. Le festival Lumière à Lyon. Il a commencé samedi dernier, c'est jusqu'à ce dimanche, il fête ses 10 ans. Le prix Lumière sera remis à Coppola. On célèbre à Lyon le patrimoine dans ce festival. Ça va du cinéma muet au dernier Scorsese.
Voilà,
hein,
oui, pour Netflix.
Pour Netflix. Qu'est-ce qui vous plaît en particulier dans ce festival?
Vous voulez que je vous dise la
oui,
vérité? L'ambiance.
Bon, eh ben,
à
c'est
Lyon,
déjà ça.
Le cinéma, c'est bon vivant et c'est relax. Bertrand Tavernier et Thierry Flémeau n'ont surtout pas dit quand ils ont créé le festival, alors nous allons célébrer le patrimoine dernière. Doc, non, ils l'ont joué archi cool. Ouais. Le festival ouvre au public, mais plus que ça, il est dans les Salle de Lyon et du Grand Lyon. Pas de compétition. Des vedettes, parce qu'ils connaissent beaucoup de monde, mais elles sont là décontractées, elles n'ont rien à vendre. Et ils ont eu la bonne idée, parce que les cinéastes, en gros, ils sont cinéphiles, et de leur dire, écoutez, venez présenter dans les salles, choisissez dans les films qu'on présente celui que vous aimez, venez présenter. Et ils viennent, ils reviennent, les Dardenne sont des habitués. Cette année, Luc Dardenne est venu tout seul présenter un film américain de 1948, Moonrise, en français, ouais. Le Fils du Pendu. Un film de...
Je vais présenter un film de Borzegi, ou Borzegi, Borzegi, ou Borzegi, ça dépend comment vous voulez le prononcer.
Bon, alors ça, après... c'est pas gentil. Hein.
Ah oui, il a de l'humour après, il en a très très bien parlé. Toutes les compétences ici sont utilisées, même si ce n'est pas votre métier principal, comme Serge oui. Rombert.
Dans la vie, je suis le fondateur d'une société de restauration qui s'appelle Lobster, donc c'est très sérieux. Je suis le président du cinéma des armées, c'est encore plus sérieux. Mais à côté de ça, je suis pianiste de cinéma muet.
Et il a donc accompagné au piano trois courts-métrages de Chaplin. Vincent Delerme, il sait chanter ses chansons. Oui. Alors pourquoi pas celle des autres? Entre en matière étrange l'an dernier quand il vient pour la première fois pour le festival, si ça plaisait à une grande dame?
Je l'ai découvert à travers un prisme un peu spécial parce que il fallait chanter des chansons d'Edith Piaf pour faire plaisir à Jane Fonda, ce qui était un exercice, moi je crois que j'avais jamais chanté de chanson de Piaf de ma vie.
Voilà, et puis il y a la tradition du mâchon à 8h du matin. Je vous dis tout de suite, je ne me suis pas inscrite. C'est l'heure à laquelle les ouvriers de la soie qui commençaient à travailler à 4h du matin avaient faim. Le menu donc avec Thierry Frémaux.
Vous commencez par un café au bar et après vous enchaînez Mâcon Blanc, Beaujolais, Côte-du-Rhône ou Bourgogne. Et puis ce que vous mangez, des gratons, gratin d'andouillette, tablier de sapeur, toutes ces choses réjouissantes dont Tarantino, qui est venu, me disait « Alors c'est très bon, mais c'est quoi ?» Parce que parfois c'est un peu difficile à identifier. Et vers 10h du matin, vous sortez dans un léger état d'ébriété, léger, mais avec un énorme complexe de supériorité sur le reste du monde parce que vous l'avez fait.
Voilà.
Quand Eva Bettan se fait reporter, c'est formidable. Un tout petit mot d'un des films de la semaine, le Dolan, on va voir le Dolan.
Oui, et vous allez voir. Vous pourriez penser que c'est un premier film, parce qu'il y a la fraîcheur d'un film de la jeunesse, et vous voyez en même temps toute la maîtrise, et vous voyez la profondeur de ce qu'il dit, et vous voyez peut-être un cap. Il n'a que 30 ans, et peut-être qu'il finit un cycle.
Ça s'appelle Mathias et Maxime, merci.
Il dit qu'il veut faire des films d'horreur, des films de genre, on va voir s'il va tenir la distance.
À bientôt Eva Bettan.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Sébastien Léas.
Cet après-midi, les nuages recouvrent le ciel sur un large quart nord-ouest, apportant des passages pluvieux intermittents des côtes de la Manche jusqu'au Médoc, aux Charentes, à l'Indre, à la Champagne et à la Meuse. Le vent souffle aussi assez fort au passage de cette perturbation avec des rafales voisines de 50 à 70 km par heure, voire plus sur les côtes atlantiques. Entre le nord de l'Aquitaine et le sud de la Lorraine, un voile dense de nuages venant de la perturbation envahit le ciel. Quelques éclaircies arrivent quand même à se dessiner cet après-midi près des Flandres sur le Cotentin et l'ouest breton. Les éclaircies sont encore plus larges et encore plus belle entre les Pyrénées, le Golfe du Lion, le Massif Central et l'Alsace. Et le ciel est quasiment tout bleu en Corse et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur à la Franche-Comté. Les températures de cet après-midi sont comprises entre 14 et 20 degrés sur la moitié nord et 17 à 23 degrés plus au sud.